Voilà. Il est équipé. Seigneur, merci pour ce message que Gérald va distribuer de ta part. Merci de nous donner des cœurs attentifs, des oreilles ouvertes. Et Seigneur, merci de bénir particulièrement Gérald dans son message. Et que nous soyons nous-mêmes bénis par lui. Amen.
Je ne vous cacherai pas que ça n'a pas été simple pour moi de préparer le message de ce matin. Je me suis interrogé sur que dire, parce que l'été, il n'y a pas de thème imposé, donc c'est un peu la liberté. Et puis finalement, j'ai décidé d'être un peu personnel, de partager avec vous une interrogation que j'ai eue ce printemps, et puis un certain nombre de textes dans la première épître de Jean, vous verrez, pris un peu comme ça, pas au hasard, mais des textes qui m'ont fait du bien. J'espère qu'ils vous encourageront aussi. Ce printemps, j'ai lu un livre qui m'a profondément interrogé sur ma vie avec Dieu, ou plus exactement, sur l'impact de ma foi dans ma vie quotidienne. S'interroger sur sa foi ou interroger sa foi, ça m'a paru de prime abord étonnant, peut-être un peu déplacé. Bien sûr que je crois. Et je peux chanter les paroles que nous avons chantées tout à l'heure en pleine conviction. Je m'affirme chrétien, je crois en un Dieu créateur de toutes choses, je crois en Jésus, Fils de Dieu, mort pour mes péchés, ressuscité. Je crois dans une vie future, éternelle avec Dieu. Mais encore, où et après? Mais encore, ne s'agit-il pas dans cette réponse d'une foi passive, un peu théorique ou conceptuelle? Dans le fond, je me suis demandé ce qu'exprimait ma foi. Un concept, une habitude, ou bien une relation réelle, une présence de Dieu, un style de vie, voire la vie. Et en regardant un peu derrière moi, les quelques mois en arrière, je me suis aperçu que plus je faisais de choses pour Dieu, moins je sentais sa présence, moins j'avais envie de passer du temps avec lui. Je me suis trouvé tout d'un coup vide, je me suis senti captif d'une forme de culture religieuse du faire, pas de la vie. Je me suis senti désemparé, je n'avais même pas envie de crier à Dieu. Mais comme souvent dans nos crises, quand nous n'avons plus la force ou l'envie d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui vient vers nous. Et une lumière m'est venue de la première épître de Jean. C'était un texte que nous étudions alors dans notre groupe de quartier. Et au début, ce texte me laissait un peu froid, un peu distant. Puis petit à petit, il m'a semblé que Jean avait écrit pour moi. Et puis au chapitre 4, que j'avais spécialement travaillé, il m'a semblé que Dieu m'invitait à regarder ma vie avec un regard neuf. Alors, c'est donc quelques éléments de cette épître que je veux partager avec vous ce matin. Enfin, je crois que ce texte qui m'a beaucoup encouragé, beaucoup remis en route, peut aussi vous aider, nous aider, quelle que soit notre situation. Évidemment, la première épître de Jean, c'est 5 chapitres, on va pas les regarder comme ça. Alors, j'ai pris quelques thèmes, les thèmes qui m'ont particulièrement fait du bien. Peut-être d'abord pour juste rafraîchir votre mémoire, mettre en évidence quelques éléments qui nous permettent d'entrer dans ce texte de Jean. Alors les objectifs de Jean qui s'adressent à une communauté ou à un ensemble de communautés qu'il connaît bien, sont au nombre de trois principalement, et on peut les retrouver dans trois versets, le verset 4 au chapitre 1, « Que votre joie soit parfaite », le verset 1 du chapitre 2, « Que vous ne péchiez point », et au verset 13 du chapitre 5, « Que vous sachiez que vous avez la vie ». Et voilà un verset qui était extrêmement intéressant dans ma situation, savoir que j'ai la vie. Et puis dans cet épître, Jean invite ses lecteurs à tester leur foi et leur comportement. Et on pourrait formuler ces tests autour de trois questions. Croyons-nous que Jésus, venu en chair, est le Fils de Dieu ? Pratiquons-nous la justice et observons-nous ses commandements ? Et est-ce que nous nous aimons les uns les autres ? Et Jean déclare sans ambiguïté que notre foi doit trouver un prolongement dans notre comportement. Un mot encore sur cet épître, sur sa forme. Vous verrez qu'on y trouve beaucoup de relations de cause à effet. Jean pose une affirmation et immédiatement suit la conséquence de cette affirmation. Alors, il faut toujours partir de quelque chose. Et le premier verset qui m'a touché est le verset 20 du chapitre 3. « Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et il discerne tout. » Le verbe original en grec pour discerner est « connaître ». Connaître avec une connotation de comprendre, de savoir. Ça a été pour moi un premier réconfort. Je n'avais pas envie de crier à Dieu, mais Dieu savait et comprenait ce qui me troublait. Et cela m'ouvrait un chemin. C'est plus facile de dire et d'aller vers Dieu quand on réalise que dans le fond, il sait déjà tout. Et puis ensuite, deux versets au chapitre 4, fameux chapitre 4, les versets 9 et 10, qui dit ceci, « Voici comment s'est manifesté l'amour de Dieu au milieu de nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Voici ce qu'est l'amour, ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime d'expiation pour nos péchés. » C'est un texte que l'on connaît bien, que l'on redit souvent, on l'a déjà entendu ce matin, mais est-ce qu'on réalise toujours bien sa portée ? Il ne s'agit pas ici d'un espace temporel, Dieu en premier, mais d'une vérité fondamentale. Il n'est pas possible d'aimer Dieu si je n'ai pas d'abord reçu son amour. Et ce qui est extraordinaire, c'est que pour m'aimer, Dieu n'attend rien de moi. Et je crois que cette vérité, nous avons besoin de nous la réapproprier chaque jour. Je n'ai rien à faire, je n'ai rien à prouver, rien qu'à recevoir l'amour que Dieu veut me donner. Et cela, je l'avais un peu oublié, et je laissais peu de place à Dieu pour m'aimer. Alors ensuite, quelques réponses. Croire et après deux verbes, connaître et garder. Ces deux verbes, on les retrouve souvent dans cet épître. Évidemment, il faut peut-être se rappeler leur sens profond. Connaître, et comme souvent ça se trouve dans les textes que nous lisons, le verbe grec a plus de profondeur et de sens que l'utilisation courante que nous en faisons en français. Dans connaître, on trouve l'idée de venir à la connaissance, d'apprendre à connaître. Et ça nous rappelle que Dieu est un Dieu de révélation, que nous avons à le découvrir petit à petit, à entrer en relation avec lui de manière plus en plus profonde. Et puis garder, c'est la même chose. Garder, au-delà, c'est observer. Et puis, peut-être une petite connotation de prendre soin. « De nouveau, deux textes dont le chapitre 2, cette fois, les versets 3, le verset 3, et à ceci, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Et au verset 5, mais celui qui garde sa parole, en lui, vraiment, l'amour de Dieu est accompli, à cela nous reconnaissons que nous sommes en lui. Jean nous invite à garder, à observer deux choses. La parole, cette révélation incarnée par Jésus, et ses commandements. Et si on comprend profondément le sens de garder, il s'agit bien d'observer, de se conformer. Mais moi, j'aime aussi ce sens de prendre soin. Cela nous rappelle la valeur de cette révélation, que Jean exprime d'ailleurs de manière extraordinaire dans les premiers versets de sa lettre, les versets 1 et 2 du chapitre 1, que j'aimerais quand même vous lire, qui ne seront pas affichés. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée et nous avons vu et nous rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était tournée vers le Père et s'est manifestée à nous tous. Garder sa parole et ses commandements nous conduit à connaître mieux Dieu, à découvrir encore mieux son amour et peut-être à connaître plus de l'intérieur notre appartenance à Dieu. Et pour moi, ça a été première application concrète, ça a été de mettre un peu d'ordre dans mes priorités. Et c'est un chemin. Le deuxième thème, autour d'un deuxième verbe, c'est le verbe demeurer, croire et après demeurer. Jean insiste beaucoup sur cette relation qui doit exister entre Dieu et nous, et il le fait au travers de ce verbe demeurer. Demeurer, c'est l'idée de la durée, c'est l'idée de conserver l'état dans lequel nous sommes. Vis-à-vis de Dieu, c'est rester dans une relation de proximité qui lui permet de nous faire grandir. C'est aussi la présence du Saint-Esprit en nous. Au verset 24 du chapitre 3, Jean dit ceci, « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Par là, nous reconnaissons qu'il demeure en nous grâce à l'Esprit dont il nous a fait don. » Et au verset 13 du chapitre 4, « À ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné de son Esprit. » Garder ses commandements démontre que Dieu demeure en nous. Et nous en lui. Et nous le savons, nous connaissons, c'est toujours ce verbe connaître, c'est-à-dire que nous pouvons être conscients de cette proximité, de cette présence, grâce au Saint-Esprit, don de Dieu. Mais Jean met en évidence une dynamique entre Dieu et nous, dynamique dont Dieu est l'auteur et qui nous permet de vivre cette observance des commandements. Non comme une contrainte extérieure, ce qui serait du légalisme, mais comme conséquence toute naturelle de la présence de l'Esprit-Saint en nous. Et encore deux versets dans le même sens. Les versets 15 et 16 du chapitre 4, « Quiconque confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. » Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Là encore, cette action de demeurer, elle se manifeste par un comportement visible, confesser, aimer. On découvre ainsi que ce qui pourrait être statique, demeurer, rester, s'avère être une dynamique de vie. Et j'ai découvert que cette dynamique de vie n'est pas le résultat de mes efforts, le résultat de mon engagement, mais bien plutôt le résultat de cette présence de Dieu en moi. Alors je dois apprendre à ne pas l'étouffer par mes désirs de plaire, de me mettre en valeur, de faire, mais bien de me laisser conduire avec humilité par Dieu. Et puis, le troisième thème, et ça sera le dernier, et après, l'amour. L'amour est omniprésent dans ce texte de Jean. Et là encore, nous découvrons un étonnant aller-retour. Nous avons vu précédemment que l'origine de l'amour est en Dieu. Amour manifesté de la manière la plus parfaite par l'envoi de Jésus, le Fils, dans le monde. Et cet amour doit se refléter dans notre vie. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Verset 16 du chapitre 4. Nous, nous aimons parce que lui, le premier, nous a aimés. Et voici le commandement que nous tenons de lui. Verset 21 du chapitre 4 toujours. Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère. Et au verset 20, celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. On peut tirer plusieurs enseignements de ces textes, de quoi alimenter bien quelques prédications. Mais je mettrai l'accent toujours dans le sens et la perspective de ranimer ma foi sur le point qui m'a touché. Le fait de demeurer en Dieu, comme nous l'avons vu, nous met en communion avec l'amour de Dieu. C'est dans sa proximité que je trouve l'amour. Et cet amour, je suis invité à l'exprimer. J'en dis « aimer ses frères ». Moi, j'y ai vu une autre piste. Est-ce que l'amour est une source de motivation pour mon service, quel qu'il soit? Ou est-ce que mon service a des motivations plus obscures, telles que répondre à un besoin, faire taire ma culpabilité, me mettre en évidence peut-être? Et cela change beaucoup de choses. Et peut-être que nous sommes invités, moi je l'étais, à revoir nos engagements sous cet éclairage-là, cet éclairage d'amour, et je crois que ça nous libère. C'est encore un chemin à défricher. Je vais m'arrêter là et conclure. Dans une période un peu troublée et au travers de ce texte, Dieu m'a rappelé plusieurs choses que j'avais un peu oubliées ou laissées de côté. C'était un peu comme un électrochoc. Premièrement, Dieu m'a rappelé qu'il est à l'origine de tout. Il m'a aimé bien avant que j'aie conscience de sa présence, voire de son existence. Il n'a rien attendu de moi avant de se révéler. Deuxièmement, Dieu me connaît profondément. Il sait notamment mon incapacité à aimer, mon incapacité à garder ses commandements. Il n'attend donc pas de moi que je me mette en route tout seul. Il me propose de demeurer en lui, en réponse à sa présence en moi. Il m'invite d'abord à une relation de plus en plus profonde. Troisièmement, c'est de cette dynamique relationnelle que va émerger une vie, un comportement conforme à ce que Jésus nous a montré. Puis quatrièmement, tout ce travail de Dieu en moi doit s'exprimer visiblement dans mon service, dans mon engagement, motivé par l'amour des autres. Croire et après, et alors? Mais je suis en train dans ma vie de remplacer le mot foi par le mot confiance, parce que je découvre que pour moi l'enjeu est là. Quand je veux faire les choses par moi-même, et cela me conduit souvent dans des impasses, je crois que c'est parce que je n'ai pas confiance en Dieu, je ne crois pas qu'il puisse faire les choses mieux que moi. Quand je fais quelque chose pour changer ce que je sais être négatif en moi, et que je m'épuise beaucoup, souvent sans résultat, c'est encore que je n'ai pas confiance en Dieu, que lui peut changer les choses. Alors humblement, avec des hauts et des bas, je me laisse conduire dans ce chemin de confiance Et je vous encourage, vous peut-être qui vous posez les mêmes questions ou d'autres questions qui se rejoignent sur votre foi, sur votre engagement, sur vos motivations, je vous encourage à relire cette lettre de Jean. Elle peut certainement vous apporter des réponses. Amen.